Oméga, le magazine des sciences et des techniques, avec Christian Sauty et Jean-Yves Casga.
Micro-méga, deuxième partie après le G8 et son compromis à minima pour lutter contre le réchauffement climatique. Après la médaille d'or du CNRS attribuée à Jean Weissenbach pour ses travaux sur le génome, nous allons nous intéresser maintenant au 100e anniversaire de l'aéronautique française. Un centenaire qui va quelque peu transformer nos Champs-Élysées parisiens en tarmac avec des Rafales, des Mirages et d'autres aéronefs de légende. Après quoi, nous irons à Mont-de-Marsan pour les rencontres mondiales du logiciel libre. L'industrie aérospatiale française s'apprête à célébrer le centenaire de son existence. Ce sera sur les Champs-Élysées à Paris du 4 au 12 octobre prochain. La grande partie jardin de cette célèbre avenue qui débouche sur la place de la Concorde sera parée d'avions de légende et autres hélicoptères qui sensibiliseront le public à cette conquête du ciel.
C'est en effet en 1908 qu'a été créée une chambre syndicale des industries aéronautiques en France sous la présidence du marquis de Dion et qui a rassemblé des noms aussi prestigieux que ceux de Louis Blériot et Louis Breguet. Et deux jours plus tard, à Issy-les-Moulineaux, Henri Farman effectuait à bord d'un aéroplane le premier vol d'un kilomètre en circuit fermé. Charles Edelstein, le président du GIFAS, le groupement des industriels français de l'aéronautique et de l'espace, nous décrit le visage de la plus belle avenue du monde lors de cette célébration.
Vous allez voir des Rafales sur les Champs-Élysées, vous allez voir aussi des avions beaucoup plus anciens, tels que le Blériot, le SPAD, ou un petit peu plus récemment le Mirage, qui seront sur les Champs-Élysées exposés. Ce seront des matériels soit provenant de notre musée, le musée de l'air, soit des avions réels, c'est-à-dire des avions qui volent, et qui seront amenés sur les Champs-Élysées. Je pense que ça sera une grande fête pour les gens, car je pense que les gens aiment beaucoup leur industrie aéronautique, et là ils auront la possibilité de voir un certain nombre de choses intéressantes, et même plus qu'intéressantes, passionnante.
En un siècle donc, les aéronefs ont évolué prodigieusement, qui ont transformé notre Terre en un grand village planétaire. Mais pour Charles Edelstein, qui est également président de Dassault Aviation avec ses Rafales militaires et ses Falcons civils, il n'est pas question de nous reposer sur nos lauriers.
Nous sommes la France, l'un des premiers pays à avoir créé une industrie aéronautique, ou du moins d'avoir fait l'aéronautique, et que nous ne pouvions pas laisser passer ce centenaire, pour la bonne raison, c'est que notre industrie est là, elle est bien vivante, c'est une industrie compétitive, et qui a un grand avenir devant elle, et que nous voulons fêter pour montrer que nous sommes bien présents, et nous avons bien l'intention d'être présents pour le deuxième centenaire.
Il convenait donc de s'appuyer sur un scénographe de talent. Yvan Inman, bonjour.
Bonjour.
C'est donc à vous qu'est revenu cet honneur de transformer les jardins des Champs-Élysées en espace réservé aux fleurons de l'aéronautique. Alors, les avions, c'est votre tasse de thé, vous, scénographe de talent?
Je dirais même pour le moment, ça serait peut-être même mon bol de soupe, parce que ça me fait travailler à plein temps depuis maintenant presque 18 mois, parce que cette préparation d'exposition a lieu depuis 18 mois. Le GIFAS nous a contactés avec une équipe d'amis d'une agence qui s'appelle Magic Garden avec qui je travaille en appui logistique et de boîte de production, et nous travaillons depuis 18 mois à cette préparation, donc c'est quand même un très très gros ouvrage comme on dit dans ce genre d'activité qu'est l'événementiel.
Et d'où est venue l'idée, parce que quand vous dites des avions comme ça sur les Champs-Élysées, on pense immanquablement aux énormes locomotives que la SNCF avait mises, c'est une sorte de suite
il y a une forme de ouais. Continuité, je vais rappeler quand même que monsieur Gallois est passé de la SNCF chez Airbus. Il a été très très enthousiaste, et je rends hommage à mes amis qui avaient monté cette exposition sur les avions, sur les trains, et Gallois est resté très marqué par ça. Donc c'est vrai qu'au niveau du GIFAS, quand ils ont décidé de voter un budget pour fêter ces 100 ans d'aéronautique, ils ont pris parti de cette exposition des trains pour lancer aussi ce projet, ce qui fait que l'un ne va pas sans l'autre, et c'est vrai que bon, c'est un peu le même genre de bataille du fait de la surdimension des engins et de l'organisation qu'il faut faire, quoi.
Alors précisément, logistique, ça doit pas être simple, parce que un avion, c'est souvent aussi lourd qu'une locomotive. On sait bien que sous les Champs-Élysées, il y a le métro, ça doit pas être tout simple, on peut pas les poser n'importe où, et puis ils vont pas venir par leurs propres moyens. Vous avez pas posé un Airbus sur les Champs-Élysées.
Non, sur le principe, c'est une étude logistique, il y a des audits, on fait le tour de tous les industriels qui veulent exposer des matériels. Alors ça va aussi de la pièce détachée, je dirais la plus petite, qui risque d'être dans une vitrine de bijouterie, parce qu'il y a des pièces qui servent pour le spatial, qui sont de la micro esprit absolu d'artisan absolument remarquable, jusqu'à la pièce d'Airbus A340 avec la pointe avant, le nez de l'A380, vous avez des éléments d'aile de 320, vous avez des rafales, vous avez des mirages, et vous avez aussi ces très très beaux avions de collection du musée de l'air, donc puisqu'il y en a aussi quelques-uns qui ont 100 ans, donc c'est aussi le côté exceptionnel et de la diversité de ce panel d'appareils qui a montré les hélicoptères aussi.
Mais vous allez paralyser Paris pour pouvoir acheminer les avions, parce qu'on imagine des semi-remorques incroyables avec les ailes qui dépassent de partout.
Non, je vous rassure, l'idée est de travailler beaucoup la nuit en livraison, parce qu'on va éviter déjà les soucis de circulation, on va respecter un peu la vie du Parisien, qui n'est pas toujours facile au niveau de ces transversales maintenant.
Ça veut dire que vous allez travailler la nuit.
Exactement, on va travailler de nuit, parce que c'est les approches logistiques qui sont les plus délicates, évidemment. Monter l'exposition en soi, bon, il y a des endroits, je dirais des stands, des lieux d'accueil, des auvents de protection pour les vieux appareils, il y a une scénographie esthétique de mise en place des appareils, il y a une mise en lumière, tout ça sur le terrain, il y a une adaptation, mais on relève des outils du spectacle et de l'événement pour les mettre en place. Par contre, c'est vrai que pour pouvoir les éclairer et les mettre en place, il y a d'abord une approche logistique assez conséquente, hein, parce qu'il y a des éléments de, par exemple, d'Airbus qui sont assez énormes, qui remontent par la Seine, par barge, qui vont prendre des écluses, qui vont arriver au pont de Suresnes, qui vont être grutés sur le pont de Suresnes, traverser tout le bois de Boulogne, arriver à la Grande Armée, porte-maillot et descendre les Champs-Élysées pour être installés. Donc c'est vrai que ça va être des prouesses logistiques, une par une, pour ces gros appareils, voilà.
En général, on appelle ça du déménagement. Il faut avoir une âme de déménageur.
Oui, ben vous savez, les origines de l'événement et du spectacle sont toujours inspirées des moyens de transport. Moi, dans le théâtre, on a toujours utilisé les moyens de marine, qui étaient fantastiques. Et puis aujourd'hui, maintenant, vous entendez parler qu'il y a des flight cases qui traînent sur scène. Les flight cases, c'est inspiré de l'avion, avec les moyens de logistique et de compactage des bagages. Donc, c'est des cultures qui se croisent. Donc, c'est pas du tout, au contraire, un monde inconnu qui rencontre un autre. Il y a une approche, parce que l'artiste est aussi en voyage, en tournée, et prend ces moyens-là.
Yvan Hinman, à quoi ça sert un scénographe, là, dans ce cas précis? Parce que c'est une sorte d'ode à l'industrie de l'aviation. Bon, on imagine que vous avez des contraintes, on ne peut pas les mettre n'importe où, ces avions. Et puis ils vont pas danser. Donc c'est quoi le travail du scénographe?
Ben c'est une réflexion de fond qui s'est faite avec le groupement industriel français de l'aérospatiale. C'est une envie de montrer aussi, je veux dire, c'est toujours de l'humain quelque part. Donc ça va de l'artisan à l'industriel. Il y a l'artisan qui va fraiser une vis absolument exceptionnelle et indispensable pour un panneau solaire, au même titre que vous avez l'ensemblier général comme Airbus qui va collecter tout ce monde-là, tous ces ensembliers, toutes ces pièces détachées, tous ces motoristes, ces industriels de l'aluminium, etc. À un moment donné, on arrive à voir un parcours complet de ce qu'il faut pour un avion de recherche, de technologie, de coordination, de montage d'usine. C'est totalement impressionnant. Donc avec les supports vidéo qu'on a maintenant qui peuvent montrer des choses qui ne seront pas sur les Champs-Élysées mais qui sont aussi dans les usines, au même titre que l'appareil lui-même qui est très beau, il y a aussi une esthétique, il y a aussi quelque chose d'impressionnant. Enfin, de l'hélico à l'élément d'Airbus en rafale, il y a différentes approches esthétiques, que ce soit une fusée aussi. Donc je pense que nous, on s'est mis au service de tout ça, c'est-à-dire qu'on a voulu, avec chaque industriel qu'on a rencontré, voir ce qu'il avait envie de montrer de plus beau sur ses capacités, et donc il y a quelque part le meilleur qui arrive, que ça soit la plus belle hélice à l'ancienne, avec maintenant 60 pales qui sont incurvées, c'est un travail d'orfèvre absolument remarquable, jusqu'à le moteur de fusée qui relève presque de la sculpture de César quand il est mis en lumière avec toute cette tuyère, je trouve qu'il y a une fascination sur l'industriel. De l'autre côté, vous avez les éléments pièces détachées qui ont quelque part quelque chose de beau en esthétique industrielle, et vous avez de l'autre côté aussi l'avion fini. Donc les deux mondes se rejoignent, et puis il y a aussi cette part de rêve, je dirais, on le fait de façon grand public. Il faut aussi cette vulgarisation, cette envie de montrer aux jeunes et aux enfants, et avec leur père et maman qui passeront un mercredi après-midi ou un samedi et dimanche sur cette exposition, de cette part de plaisir qui a travaillé dans des secteurs, je dirais, porteurs d'avenir. Il y a aussi toute une refonte intellectuelle qu'il y a sur ce milieu-là avec les enjeux d'environnement durable. Il y a tous ces intérêts-là qui sont montrés dans cette exposition. Et un scénographe comme ça, il s'est simplement mis avec une amie à moi qui est Béatrix, avec qui en a fait la direction artistique de ce projet, on s'est vraiment retrouvé dans un plaisir de dire qu'est-ce qu'il faut pour les sublimer. C'est pas, nous, on le fait pas, je dirais, au titre acteur, comme on ferait un spectacle. On le fait vraiment, les appareils, il y a des choses qui se suffisent à elles-mêmes. Elles sont tellement belles et elles suscitent l'admiration d'elles-mêmes. Faut juste les soutenir. Un peu de lumière le soir, de 20h à 24h, parce qu'elle sera éclairée. Il y a de la scénographie lumière. Il y a des beaux endroits avec un peu de gazon, un hache, comme on voit vu du ciel pour les arrivées d'hélico, qui a un peu de mise en situation, un peu de bande son aussi de temps en temps, voilà.
C'est quand ?
Ça, c'est du 4 au 12 octobre, et c'est tous les jours de 10h à 20h, avec ces deux week-ends.
Sur les Champs-Élysées, donc on va fêter le 100e anniversaire de l'aéronautique, des avions. Yvan Hillman, merci de nous avoir fait rêver.
C'était un vrai plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous allons faire un tour du côté de Mont-de-Marsan, c'est dans le sud-ouest de la France, Mont-de-Marsan, où se sont tenues récemment les rencontres mondiales du logiciel libre. Des rencontres qui ont attiré plusieurs milliers d'amateurs avec une nouveauté, la communauté du libre s'intéresse maintenant au matériel. Par exemple au scooter, aux caméras vidéo, au téléphone, un téléphone qui a même un nom, OpenMoco. Et dans quelques secondes, vous saurez tout avec Agnès Rougier du pôle science de Radio France Inter. National.
Lucas Bonnet, promoteur de l'OpenMoco. Est-ce qu'on peut dire que c'est un téléphone ?
Oui, tout à fait, c'est un téléphone libre, mais pas principalement un téléphone, c'est un smartphone et plus généralement c'est un projet libre dont on pourra faire ce qu'on voudra dans les limites du matériel.
Alors, peut-être petite description, ça ressemble à un PDA en fait. Hein.
Oui, tout à fait, c'est le look d'un PDA avec un gros écran tactile et deux boutons sur le côté.
Un smartphone libre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui est libre? Qu'est-ce qu'on peut en faire, Lucas Bonnet?
Eh bien, on peut en faire quasiment ce qu'on veut. C'est un système d'exploitation libre qui est basé sur le noyau Linux, donc comme sur les ordinateurs. On peut tout modifier, on a accès au matériel si on désire le modifier. On a accès au plan de câblage et au plan de connectique du matériel sur le wiki du projet. Donc on peut aller, si on veut, se connecter, sortir un fer à souder et le modifier aussi. Ah. Brancher un module supplémentaire sur le téléphone ou autre.
Bon, qu'est-ce qu'il fait, a priori, là, avant d'être modifié, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est un ordinateur?
C'est un petit ordinateur de poche, oui, tout à fait. Comme c'est un système d'exploitation Linux quasiment complet, comme sur le PC, on peut faire les mêmes choses, en gros, que sur le PC. On aura un client mail, un navigateur web, un client SSH pour ceux qui aiment bien la ligne de commande, comme sous Linux.
Et c'est le premier?
Oui, c'est le premier téléphone libre, complètement libre, oui. Ouais.
Alors, il est fabriqué où?
Il est fabriqué en Chine. Le constructeur, c'est FIC, First International Computer, qui est un fabricant taïwanais de smartphones, qui a beaucoup participé au projet OpenMoco, qui s'est réorganisé autour du projet OpenMoco, qui y croit beaucoup, qui prête ses techniciens et ses usines pour fabriquer le téléphone.
Pour les 9e rencontres du logiciel libre, toutes les conférences étaient filmées par Alexandre Poltorak de la société suisse Elfel, avec des caméras sous licence libre elles aussi. Mais vous allez voir que pour Richard Stallman, l'inventeur du système GNU en 1983 et donc le père du logiciel libre, le matériel et les logiciels, ce n'est pas la même chose.
Ah, un camarade vidéo de réseau.
Qui est totalement ouverte.
Ouverte, c'est quoi?
Le code du FPGA est donné aussi dans la caméra.
Et les applications, je veux savoir si le programme qui tourne dedans pour convertir les pixels en vidéo et aussi
totalement
logiciel libre.
C'est André Filipinov qui l'a développé.
Ah. Donc c'est possible alors, le hardware libre?
Non. Pour le matériel, le concept libre ne s'applique pas.
Et pourquoi pas?
Il n'y a pas de copieuse du matériel. Le programme qui tourne dans l'FPGA est libre, mais c'est un programme, c'est du logiciel. Et les autres programmes aussi sont libres, mais sont du logiciel. Donc il y a complètement de logiciel libre et c'est bon, mais le matériel n'offre pas la possibilité de le copier. Donc la question de si c'est interdit n'a pas de sens. Si un jour il y a des copieuses pour ce matériel, à ce moment, la question de si nous sommes permis de le copier fera du sens.
On ne peut pas parler de hardware libre, alors Alexandre Poltorak.
Non, il y a
Donc ce qu'on appelle du open hardware, nous, il y a deux niveaux. Alors le premier niveau, comme M. Stallman disait, on peut effectivement l'appeler le logiciel libre, quoique c'est quand même très différent. Donc c'est le FPGA, c'est notre code FPGA. À savoir que sur notre caméra, il y a deux processeurs, un processeur de type RISC. Lui, il fait tourner un GNU Linux avec plein de programmes et on utilise ça en fait surtout pour le réseau et pour toutes les applications qu'on peut faire tourner sur un GNU Linux. Le code FPGA sert en fait de compresseur vidéo et pour ça il est, je pense, quelques dizaines à centaines de fois plus rapide que le dernier PC dernière génération.
Qu'est-ce que ça veut dire FPGA ?
C'est une sorte de processeur, pour simplifier, qu'on programme, donc c'est de la programmation, mais c'est en fait de la description hardware. Donc c'est comme si on concevait un vrai CPU qui est orienté pour un certain métier. Voilà, donc c'est quelque chose de très très spécifique. Alors l'avantage d'un FPGA, du type d'FPGA en tout cas qu'on utilise reprogrammable, c'est qu'on peut modifier le hardware entre guillemets et lui attribuer de nouvelles fonctionnalités.
Alors le packaging aussi est libre, Alexandre ?
Chez nous ça a deux niveaux et c'est là qu'il ne faut pas utiliser le mot libre pour ne pas fâcher M. Stallman. C'est que tout le hardware qu'on fabrique, donc la carte mère, même le boîtier, il y a tous les chemins et si quelqu'un qui en a les moyens, il peut le refabriquer. D'accord ? C'est quand même extrêmement important d'avoir du open hardware parce que le open hardware donne la possibilité à des pays, par exemple, en tout cas déjà à ce niveau-là, d'être indépendants, de pouvoir le produire eux-mêmes et tout moyen de propager l'information est bon.
Le premier intérêt majeur de cette caméra réseau est son prix. On la trouve pour 560€ environ sans l'optique. Et le second, c'est qu'elle est reprogrammable, ce qui évite d'avoir à racheter du matériel quand on change sa fonction. Mais les RMLL nous ont aussi ouvert les yeux sur du matériel non informatique libre, comme le Scootux, un scooter conçu par Édouard Mascaron, inventeur.
Créateur même de ce moteur à air comprimé. Pourquoi le créateur et pas l'inventeur ? Parce que en étant créateur et en déposant la création fabriquée, on a droit au droit d'auteur et pas au brevet modèle, etc. Ça, c'est une nuance pour les tribunaux.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il est libre ?
Je le mets libre sur Internet. Celui qui veut le copier, le fabriquer, le machin, a absolument le droit, puisqu'il est sur le libre, comme pour les logiciels libres ou pas libres.
Hein. D'accord. Voilà. Alors, allez-y, expliquez-nous. Alors,
le gros avantage de ce moteur, c'est qu'on ne transforme pas un mouvement. C'est-à-dire, dans les autres moteurs, c'est l'ancien moteur à piston, mais on transforme un mouvement longitudinal en mouvement rotatif. Moi, je pars directement sur un mouvement rotatif. Ce qui fait qu'il n'y a absolument pas... Regardez comment ça tourne, vous voyez. On le tourne avec deux doigts, un moteur.
Ah oui.
Ce que l'on entend, bruit que l'on entend là, c'est
quoi, ouais,
les petites palettes qui viennent se plaquer sur le stator quand ils tournent à grande vitesse et ça les entraîne. Alors, c'est tout simple, on ouvre. Hein, ça, c'est très simple, c'est très facile à fabriquer, ça ne pollue pas, ça dépollue même dans les villes, et c'est surtout prévu pour aide au vélo. Vous savez, un vélo, bon, oui, les jeunes l'ont monté sur une moto, ça les amusait, mais en principe c'est pour un vélo avec une petite bouteille. Quand on sait qu'aujourd'hui on va essayer de nous vendre des voitures à hydrogène, mm-hmm, qui est une bombe ambulante, et que les réservoirs à hydrogène sont à 700 bars. Donc on va bien trouver des réservoirs à 300 ou 400 bars pour les petits vélos qui vont nous donner une autonomie d'au moins une demi-heure ou trois quarts d'heure. Voilà le gros avantage.
Et pour recompresser l'air, il faut un compresseur.
Et quand vous avez de l'essence dans le réservoir, pour remettre de l'essence, c'est ce que vous faites. Vous allez à la pompe. Pour remplir votre bouteille, vous allez au club de plongée, vous remplissez votre bouteille, vous changez la bouteille, c'est tout.
Et si on compressait dans les descentes, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Mais l'intérêt du livre, c'est que tout le monde peut chercher des solutions et en faire profiter la communauté. Alors, affaire à suivre.
Micromégas, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous nos invités de nous avoir éclairés sur les décisions du récent G8 en matière de lutte contre le réchauffement climatique, sur le génome humain, avec un coup de chapeau à Jean Weissenbach, médaille d'or 2008 du CNRS, sur les rencontres mondiales du logiciel libre qui se sont tenues à Mont-de-Marsan.
Et sur le 100e anniversaire de l'aéronautique française qui fera vibrer les Champs-Élysées en octobre prochain. Merci également à notre ami Stéphane Schiers qui a réalisé ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio France Internationale. Micromega, ce sera le même jour et la même heure.